Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte.
Papa, moins et moins, ça fait plus. Mais plus et plus, ça fait quoi?
Ah, c'est simple. Tiens, à la Banque Postale, un prêt auto à un taux super intéressant, plus une assurance auto, ça fait plus d'avantages et 2 mois d'assurance offerts en plus.
D'accord, papa, d'accord.
Jusqu'au 5 octobre 2013, ce sont les bons plans auto de la rentrée à la Banque Postale. Profitez d'une offre spéciale sur le prêt personnel et l'assurance auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre prêt personnel auto par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusive du prêteur. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à Lorias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous avez été très nombreux à venir nous rendre visite rue François 1er à l'occasion des journées portes ouvertes de ce week-end. Et certains d'entre vous ont assisté aux conférences de Franck Ferrand sur l'histoire d'Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Et oui, Wendy en parlait à l'instant. Vous savez que vous pouvez aller regarder ces causeries, notamment je crois que c'est celle de samedi qui est sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Et puis tout à l'heure, à la fin de cette émission, eh bien j'en reprendrai pour vous les grandes lignes.
Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une époque à laquelle Europe 1 n'existait pas.
Eh oui, on se demande d'ailleurs comment on a bien pu vivre sans cette radio. Alors, au temps de la Régence, il est vrai que ça ne souciait pas grand monde. Voici une période passionnante dans laquelle je vous propose de nous plonger maintenant. Alexandre Dumas l'a raconté et nous en parlerons tout à l'heure avec Nicolas Caro. Pour le moment, je vous propose de revivre la destinée fascinante de la jeune, de la belle, de la malheureuse Aïssée.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Quelques-unes de nos grandes héroïnes populaires vivent, on peut dire, sous la Régence. Je pense à Angélique, marquise des Anges, vous savez, ou à la belle Aurore du Bossu de Paul Féval. On est dans cette époque très extraordinaire, dans cette époque assez troublée aussi. Nous allons venir tout à l'heure sur la Régence. Nous allons essayer avec Nicolas Caro de comprendre cette période. C'est à ce moment-là que la belle Aïssée se fait connaître. Cette histoire d'Aïssée, c'est une des plus belles sans doute, mais aussi une des plus tristes que je connaisse. Tout commence... En fait, tout commence du côté de Constantinople. On est en 1698 et le comte de Ferriol est un diplomate français qui est en poste à Constantinople, à Istanbul, hein, à la Sublime Porte. C'est lui qui va changer la destinée de celle qui, à l'époque, n'est encore qu'une petite fille. Il faut vous dire que le comte de Ferriol est un personnage assez extraordinaire. C'est un des proches collaborateurs de l'ambassadeur de Louis XIV auprès du sultan de Constantinople. Il s'appelle Monsieur de Castanière. Monsieur de Ferriol a la cinquantaine. Il faut imaginer un homme assez corpulent, charismatique, bon vivant. Il a d'excellentes relations à la cour ottomane et notamment avec celui qui sert de premier ministre au sultan, c'est-à-dire le grand vizir Hussein Pacha. Et il a des relations d'autant plus excellentes avec tous ces personnages qu'il est un fin connaisseur de la civilisation orientale, dont il sait apprécier tous les avantages. Il s'habille à la turque, Ferriol Pacha. On l'appelle Ferriol Pacha, hein, c'est la cour de France qui l'a comme ça, qui l'a surnommé ainsi, parce que il est plus turc qu'un turc en quelque sorte. Et même lorsqu'il est en vacances, si je puis dire, lorsqu'il revient à Paris ou à Versailles, il continue de vivre à la turque, de vivre à l'oriental. Alors un jour, parmi tant d'autres, un beau jour, j'ai envie de dire, il visite un grand sérail princier. Il faut imaginer hein, ce que sont ces sérails de la Turquie ottomane de l'époque, hein, avec une espèce de présence féminine diffuse, mais qu'on ne voit pas toujours très bien. Vous savez, les femmes se cachent derrière les paravents et les moucharabiés. Une atmosphère de secret, une atmosphère qui est embaumée de jasmin et de chèvrefeuille. Et puis, le regard de notre fériole s'arrête sur une toute petite fille, oh là, 4 ou 5 ans. Mais alors, elle est jolie comme un cœur. Elle a notamment le plus joli visage du monde, ovale, avec le teint mat, de grands yeux de biche, des cils de velours étonnamment longs et un sourire à faire fondre n'importe qui. Fériole, qui est un grand connaisseur en matière de beauté féminine, sait déceler un potentiel. Il se dit cette petite fille, un jour elle sera la plus jolie femme du monde, et il se dit que c'est sa mission en quelque sorte que de la tirer, de l'arracher au sort minable qui l'attend. Cette adorable petite fille, figurez-vous qu'il va la racheter. Elle était promise évidemment à la vie des femmes du harem, aux sensualités un peu lourdes du harem. Elle aurait dû toute sa vie composer des selams. Vous savez, les selams, c'était ces bouquets que composaient les femmes turques et qui sont autant de poèmes, car on tient compte là-bas, bien sûr, de la symbolique des fleurs. Elle aurait dû se teindre les paupières, etc. Et il va en faire une petite occidentale. Il l'achète. Alors, la légende veut que Fériole ait acheté la petite Aïssée sur un marché aux esclaves, qu'il l'ait acheté comme ça pour quelques piécettes. C'est totalement faux. En vérité, il y a eu de longues négociations, ça ne s'est pas fait facilement, cette affaire, et Fériole y a mis le prix. Il a acheté Aïssée pour 1500 livres. C'est donc un investissement pour lui. Je crois que ce mot, il faut d'ailleurs le garder à l'esprit, parce qu'il résume toute cette histoire, c'est un véritable investissement. Alors, cette petite fille d'une grande beauté, qui par ailleurs a ce corps d'acrobate en caoutchouc avec le plus joli visage du monde, je vous l'ai dit, cet enfant qui paraît transporter toute la joie du monde, elle est pure, elle est innocente, elle aurait dû être malheureuse. Faut voir d'où elle vient quand même. Elle est originaire de Circassie, hein, c'est-à-dire qu'elle est originaire de cette région entre les fleuves Don et Volga, vous voyez, dans le Caucase. Les Turcs ont ravagé sa ville, ils ont pillé les maisons du village, ils ont massacré les habitants et ils l'ont capturée. Elle fait partie des rescapés du village et des esclaves qu'on a emmenés à Istanbul. Et c'est sa beauté si précoce qui l'a sauvée en vérité. On aurait dû la tuer. Seulement, elle était si belle. J'imagine, là je suis dans la... Évidemment, on est dans le roman, mais puisque l'émission est dédiée à Alexandre Dumas, aujourd'hui on peut y aller dans le roman. On imagine le janissaire ou le soldat qui était là, qui avait sans doute ordre de l'égorger, et qui l'a vue si jolie avec ses grands yeux. Il n'a pas eu le cœur, probablement. Et voilà comment donc elle se retrouve femme esclave d'un dignitaire du régime ottoman. Et il sait sans doute, ce dignitaire, qu'elle deviendra un jour la perle de son harem. C'est pour ça qu'il a du mal à s'en séparer. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Fériole l'achète très cher. Elle porte un nom, cette petite fille, évidemment. Elle s'appelle Haïdée. Alors le comte l'a à peine achetée qu'il va la ramener en France. Il était prévu qu'il rentre en France, hein, le comte de Fériole. Le 22 juin 1698, il embarque avec l'enfant pour une traversée de la Méditerranée. La petite Haïdée, il faut l'imaginer, c'est une petite fille, elle a 5 ans et demi, elle est ravie, elle court sur le bateau, elle rit à gorge déployée, elle n'a pas du tout le mal de mer. Ils font une traversée assez facile, ils sont à Marseille le 20 août. Et alors, il faut imaginer ce que c'est, hein, que l'arrivée d'un diplomate français dans le port de Marseille, des bagages à ne plus finir, il rentre avec toutes ses riches étoffes, bien entendu, et puis tout un train de maison, il y a un personnel invraisemblable pour porter les malles, les caisses. On prend tout un train de carrosses et voilà le comte de Fériole et son acquisition, si je puis dire, qui remonte vers Paris. Alors la première étape sera à Pont-de-Velle, dans la Bresse. C'est là qu'Haïdée est baptisée. Elle est baptisée Haïdée Charlotte Elisabeth. Plus exactement, d'ailleurs, c'est à Lyon qu'elle sera baptisée. Sa marraine est la sénéchale de Ferrières. Elle s'appelle Elisabeth, d'où ce troisième prénom. Maintenant qu'elle est baptisée, la petite fille est digne de passer pour la fille adoptive du comte. C'est comme ça qu'elle sera présentée à tout le monde. On arrive à Paris chez la belle-sœur du comte de Fériole, chez Madame de Fériole, hein, qui est la femme de son frère Augustin. Et c'est cette Madame de Fériole qui va se charger de l'éducation de la petite fille, de la petite Haïdée, que tout le monde à l'époque n'appelle que la jeune grecque.
un extrait de Monteclair, Le Retour de la Paix, interprété par la soprano Jacqueline Nicolas.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de la Régence et la suite de votre récit, Franck.
Alors, le comte de Ferriol a ramené avec lui en France cette petite fille qu'il avait achetée donc dans ce sérail ottoman. Haïdée, je vous l'ai dit, est ravie. Lui aussi est ravi. Il la trouve vraiment charmante. C'est sa petite fille adoptive, hein, quelque part. Et puis, elle est tellement espiègle, tellement drôle. Simplement, il va devoir la laisser parce que très tôt, dès l'automne 1698, Monsieur de Ferriol est nommé par Louis XIV ambassadeur en titre. Il va remplacer Monsieur de Castanière auprès du sultan de Constantinople. Donc le voilà qui doit rembarquer à Marseille en août 1699 pour regagner son poste à la résidence de France, où il va mener d'ailleurs une vie incroyable. Ferriol a laissé à Constantinople, à Istanbul, un souvenir absolument incroyable, au point même, il a un tel train de vie, les prodigalités dont il fait montre sont si importantes que le sultan va l'amener à se calmer, lui demande de modérer un peu son train de vie parce qu'il finit par faire de l'ombre à la cour ottomane elle-même. Vous voyez un peu le genre d'ambassadeur que pouvait être Ferriol. Alors que devient la petite fille pendant ce temps-là? Bien, elle a été confiée par Madame de Ferriol, par la belle-sœur, à des gouvernantes qui s'en amusent. Elle partage les jeux d'un petit garçon de 3 ans qui est donc le fils de la maison, Antoine de Ferriol. Et Madame de Ferriol se prend d'affection pour cette petite fille tellement charmante et tellement fine. Et on se rend compte très jeune qu'elle est d'une intelligence incroyable. Alors, vous savez ce qu'on fait des jeunes filles de l'époque quand on veut les élever bien, évidemment, on les emmène au couvent. Et à partir de l'âge de 11 ans, donc, la petite va entrer dans un couvent. Elle reçoit aussi, par ailleurs, à partir de 1702, les leçons particulières d'un abbé qui devient son directeur de conscience. Il faut qu'elle soit une bonne chrétienne, évidemment. Et puis en 1705, on l'admet dans un couvent de second ordre réservé aux jeunes filles converties, le couvent des Nouvelles Catholiques. Là, elle va recevoir vraiment l'enseignement qu'on réservait à l'époque aux demoiselles du monde. Elle commence à se faire connaître. Elle est tellement belle, cette jeune Haïdée. D'ailleurs, on ne l'appelle pas Haïdée, on l'appelle Haïssée. Parce que vous savez qu'à l'époque, on a cette habitude à la cour et dans les milieux élégants de grasseiller, comme on disait. C'est-à-dire qu'on liquéfie les consonnes, en quelque sorte. Et c'est tellement plus joli, c'est tellement plus précieux de dire Haïssée que de dire Haïdée. Donc, elle devient Mademoiselle Haïssée. On l'appelle surtout la nymphe de Circassie, parce qu'on sait d'où elle vient, bien entendu. Elle a un côté très exotique qui devait, entre parenthèses, rendre fou les jeunes gens qui la croisaient. On la voit pas beaucoup hors de son couvent, il faut dire, parce que les jeunes filles, à l'époque, on les tient très, très à l'écart, bien entendu. Mais elle a toujours ce visage rayonnant, ce corps admirable, et puis cet esprit à la fois très gracieux et très simple. Vous savez, elle est pleine d'humilité, Haïssée. Je vous dis, elle sait faire fondre les plus endurcis. Au printemps 1711, elle va retrouver son père adoptif, puisque ça y est, Monsieur de Ferriol est rattrapé par la limite d'âge, n'est-ce pas? Il doit prendre sa retraite, il rentre à Paris. Alors, il faut dire qu'il revient pas seul de Constantinople, puisqu'il va s'afficher d'abord avec une Arménienne qui s'appelle Fontana, et qu'il présente elle aussi comme sa fille d'adoption. « Mia filia d'anima », dit-il. Elle est logée comme Haïssée à l'hôtel de Ferriol. Elles ont le même âge. D'ailleurs, elles s'entendent très bien. Elles vont devenir copines, si vous me passez l'expression. Le comte de Ferriol, cela dit, se montre de plus en plus pressant envers Mademoiselle Haïssée. Et c'est là que la deuxième partie de son plan entre en action, si je puis dire. Et il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que il avait adopté Haïssée avec l'idée d'en faire une maîtresse pour ses vieux jours. À l'époque, elle avait 4-5 ans, mais elle était déjà tellement jolie. Il avait fait un rapide calcul. Il s'était dit, dans 15 ans, quand je serai moi-même devenu un vieux monsieur, elle sera absolument parfaite. C'est assez terrible. Il lui écrit, hein, d'ailleurs, on a une lettre qui a été découverte en 1828, une lettre du comte de Ferriol, où il écrit ceci. « Le destin veut que vous soyez ma maîtresse et ma fille. » Entre nous soit dit, c'est pas triste comme rapprochement. « Ne m'étant pas possible de séparer l'amour et l'amitié et les désirs ardents d'une tendresse de père. » C'est quand même complexe. Hein. « Sans moi, vous auriez été la maîtresse d'un Turc qui vous aurait peut-être partagé sa tendresse avec 20 autres. » je vous aime uniquement, au point que je veux que tout soit commun entre nous et que vous disposiez de ce que j'ai comme moi-même. » Ah, il y a du pour et du contre dans l'affaire. Il est tellement riche, ce monsieur de Ferriol. Mais en même temps, c'est quand même un vieux satyre, il faut bien le dire. À la pauvre Aïssé, si mignonne et si frêle, elle ne rêve qu'au prince charmant. Seulement, elle n'a pas le choix. Elle est liée à son propriétaire. Hein. C'est aussi terrible que cela. Or, en 1715, vous savez que c'est la mort de Louis XIV, on va bientôt célébrer le tricentenaire, et c'est le début de ce régime de débauche, de fête permanente qu'est la régence. C'est le neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui monte sur le trône. Nous allons en parler dans un instant avec Nicolas Carreau, et on est dans cette société avide de jeux, de rires, de plaisirs en tout genre, d'enivrement. On cherche la nouveauté, et il y a cette mademoiselle Aïssé qui commence à devenir très connue dans la bonne société parisienne. C'est Saint-Victor qui dit « Il y a de la dame, de la vierge et de la houri dans cette figure nuancée d'esprit, de langueur et d'ingénuité. » Elle devient d'ailleurs pas la maîtresse du régent, mais disons qu'elle subit les assauts du régent qui aimerait bien en faire sa maîtresse. Elle fréquente les meilleurs salons, celui de Madame de Tencin notamment. Elle a toutes sortes de chevaliers servants, dont Lord Bolingbroke qui est un ami de la famille de Ferriol. Mais seulement Aïssé n'a Dieu que pour un jeune homme qu'elle a rencontré au printemps 1719 chez Madame du Deffand, qui tient un des grands salons de cette époque. Le jeune homme en question est de noble lignée, de vieille famille. On l'appelle d'ailleurs le chevalier parce qu'il est chevalier d'Eddie, D'Y-D-I-E. Eh bien, ce chevalier d'Eddie, il fait battre le cœur d'Aïssé. Évidemment, elle est tellement ravissante que c'est un amour partagé. Ça va être un des plus grands amours du XVIIIe siècle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de la Régence cet après-midi. C'est la dernière partie, Franck, de votre récit.
Alors vous imaginez la situation de cette petite Aïssé qui est à la fois la maîtresse forcée de celui qui est son propriétaire et qui est un monsieur ventripotent, un vieillard assez lubrique, disons-le, et qui en même temps la couvre de joyaux et de belles toilettes. En même temps, elle a un amour dévorant pour ce petit chevalier d'Eddie. Le problème, c'est que lui est de très bonne famille, de très bonne lignée, et qu'elle se sait d'extraction impossible. Elle a peur surtout que si jamais il venait aux oreilles de quelqu'un que ces deux-là sont amoureux, ça ne rejaillisse sur le chevalier d'Eddie et que ça ne le déshonore. Et surtout, elle ne veut pas le déshonorer, son chevalier de Malte. Elle veut lui éviter la honte d'être son amant. Vous imaginez cette situation épouvantable. Elle a peur du scandale, disons-le. Elle a une pension que lui donne son père adoptif, bien entendu. « Je suis obligée, écrit-elle, de me rappeler 100 fois le jour le respect que je lui dois à Ferriol. Rien n'est plus triste que de n'avoir pour faire son devoir que la raison du devoir. » Alors, l'histoire d'amour va durer pendant des mois. Elle attend les billets du chevalier. Lui aussi passe sous ses fenêtres. Il espère l'apercevoir. Et puis un jour, à l'été 1720, Madame de Ferriol, qui est un peu son chaperon, est allée passer la belle saison dans un château du sud de la France. Aïssé se retrouve seule à Paris avec son chevalier. Et là, eh bien, elle cède. Et ce sont des jours et ce sont des nuits d'un amour extraordinaire. Et un amour qui, évidemment, va donner des fruits. Oui, on ne tarde pas à savoir dans la famille Ferriol qu'Aïssé est enceinte. L'enfant va naître dans la clandestinité. C'est une petite fille. Elle est déclarée à l'église Saint-Eustache sous le nom de Célinie. Elle est née de Blaise Leblon, officier de marine. Voilà ce qu'on a trouvé. Et de Charlotte Méry. Là, on a menti qu'à moitié. La petite fille en question est confiée à l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre, à Lady Bolingbroke, qui l'emmène de l'autre côté de la Manche et qui va se charger de son éducation. « Oh !» écrit-elle, « elle est si jolie qu'il faut bien lui pardonner d'être venue au monde, cette petite fille. » Alors, mademoiselle Aïssé écrit des lettres déchirantes, en fait. Elle est, vous avez vu à quel point elle est écartelée. À partir de 1722... elle est libre. Ferriol meurt. On se dit, ça y est, elle va pouvoir épouser son chevalier. Mais non, elle a toujours peur de le déshonorer. Il n'est donc pas question de mariage. Jamais. Alors plus tard, bien plus tard, la petite fille va rentrer d'Angleterre. Alors à 10 ans, on est en 1731, on est déjà à ce moment-là sous le règne de Louis XV. Céline le Blond est placée chez les religieuses à Sens, au couvent Notre-Dame. Et la mère vient visiter la fille, mais seulement la petite fille ne sait pas que c'est sa mère. Elle lui dit « Oh, mon père et ma mère sont mortes, mais je vous aime tellement que vous pourriez être ma mère », lui dit-elle. Et la pauvre Aïssée ne peut pas lui dire. Elle a le cœur qui se serre, elle ne peut pas révéler à sa fille qu'elle est elle-même sa mère. Elle en tombe malade, disons-le. Elle aurait aimé épouser cet homme, elle ne peut pas. Elle aurait aimé dire à sa fille qu'elle est sa mère, elle ne peut pas. Elle est bientôt atteinte de tuberculose et c'est sa suivante, c'est Sophie, qui s'occupe d'elle. Voici la dernière lettre de Mademoiselle Aïssée au chevalier d'Eddy. Alors non, ce n'est pas la dernière lettre de Mademoiselle Aïssée parce que celle-là, on l'a perdue. Le chevalier d'Eddy l'a brûlée. Ce qu'on a, c'est la réponse du chevalier. « Je ne me plains de rien, écrit-il, puisque vous me promettez de m'aimer toujours. J'avoue que je ne suis pas dans les principes où vous êtes, mais Dieu merci, je suis encore plus éloigné du prosélytisme et je trouve très juste que chacun se conduise suivant les lumières de sa conscience. Soyez tranquille, soyez heureuse, ma chère Aïssée. Il ne m'importe des moyens, ils me paraîtront toujours supportables, pourvu qu'ils ne me chassent pas de votre cœur. Vous verrez par ma conduite que je mérite vos bontés et vous verrez que je ne vous trompe pas. » Il est possible que finalement ce soit en lisant cette lettre, c'est avec cette lettre à la main qu'Aïssée soit morte. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Toujours est-il qu'elle meurt le 13 mars 1733 dans une frustration mais aussi dans un bain d'amour dont on n'a même plus idée.
On écoutait Antoine Duhamel avec Cœur aux douleurs, un extrait de la bande originale du film Que la fête commence, film réalisé par Bertrand Tavernier en 1975.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous nous parlez cet après-midi, Franck, de la Régence, avec votre invité Nicolas Carreau, journaliste européen, spécialiste d'Alexandre Dumas, membre de la Société des Amis d'Alexandre Dumas.
Et oui, bonjour Nicolas.
Bonjour Franck.
Grand amoureux d'Alexandre Dumas. Et nous allons aborder, si vous le voulez, aujourd'hui, cette période de la Régence et ses héros de la Régence à travers le regard et à travers la plume d'Alexandre Dumas. Un mot seulement, parce que j'étais obligé d'aller un peu vite sur la fin de mon récit, pour vous dire quand même que le chevalier d'Eddy aura été jusqu'au bout totalement respectueux des sentiments de Mademoiselle Aïssée. Et en même temps, vous ne m'empêcherez pas à moi de me demander s'il n'a pas été un peu lâche dans cette affaire. Est-ce que ça n'était pas à lui de faire le premier pas et de lui expliquer qu'après tout, son honneur était secondaire et qu'il aurait très bien pu l'épouser, qui qu'elle fût et quelles qu'aient pu être ses origines. Il ne l'a pas fait. Il se cache constamment derrière la pudeur d'Aïssée. « J'ose croire, ma chère Aïssée, lui écrit-il, j'ose croire que vous m'aimerez toujours, non seulement parce que je sais que vous êtes sincère, mais encore parce que je suis persuadé qu'il est impossible qu'un attachement aussi tendre, aussi fidèle, aussi délicat que le mien ne fasse pas l'impression qu'il doit faire sur un cœur comme le vôtre. » Alors tout de même, il avait été envoyé par le roi en mission à l'étranger, mais il a pu revenir à temps en ce mois de mars 1733. Il a pu revenir à temps pour qu'Aïssée meure dans ses bras. J'ai envie de dire, c'est le bel épilogue de cette histoire. Il y a un plus bel épilogue encore, c'est qu'il va s'occuper évidemment de leur fille. Il va s'occuper de Céline, à laquelle il va peu à peu tout révéler. Ils vont se retirer tous les deux dans le Périgord et l'on verra le père et la fille faire des chevauchées extraordinaires sous les yeux écarquillés de cette jeunesse périgourdine qui trouve la fille aussi belle que leurs aînés avaient pu trouver la mère. Et on va voir Céline vivre finalement toute la vie que n'aurait pas pu vivre pas pu vivre sa mère. Le problème, c'est qu'elle va mal choisir son mari. Elle épouse le vicomte de de Nantia en 1740, en pleine saison de chasse à cour. C'est un mariage, le vicomte en question n'est pas digne de son épouse, disons-le. Il va complètement gaspiller l'argent du ménage dans le jeu, etc. Et c'est leur propre fille, Marie-Denise, qui naît en 1742, qui elle épousera le comte de Bonneval et elle mènera, j'ai envie de dire, enfin la vie qu'on était en droit d'attendre pour ces jeunes femmes magnifiques. On est dans un véritable souffle romanesque, Nicolas Carreau. On a l'impression que la Régence se prête à ce genre de belle histoire, que d'un seul coup, on a ouvert les vannes et qu'on peut vivre de grandes aventures. D'ailleurs, Alexandre Dumas ne s'y est pas trompé, puisqu'il a lui-même une héroïne qui s'appelle Haïdée, hein, faut pas l'oublier.
Et quand je vous ai demandé quel récit vous nous prépariez avec votre talent de conteur pour cette émission sur la Régence, vous m'avez parlé d'Haïdée, et je me suis dit, tiens, mais c'est une histoire fantastique.
C'est curieux, je connais ce nom-là.
Pourquoi Dumas s'est jamais emparé d'elle? Et en fait, bien sûr que si, dans Monte Cristo, évidemment, le personnage central féminin, c'est Mercedes, dont Edmond Dantès est fou amoureux, mais Monte Cristo, quand il revient avec une esclave qui est en fait la fille d'un pacha de Janina qui a été trahi par Morcerf,
hein.
Et cette Haïdée qui correspond trait pour trait à Haïssée Haïdée, que vous avez raconté à l'instant, va lui servir de témoin à charge contre Morcerf pour le déshonorer et le détruire comme les autres.
En fait, le grand Alexandre Dumas allait chercher, puiser dans l'histoire de quoi constamment faire son miel.
Exactement.
Et rares sont les beaux exemples de vie aventureuse ou aventurière dont il n'est pas tiré un roman. Hein. C'est assez extraordinaire.
Oui, c'est ça. Mais de toute façon, Dumas, c'est un historien complexé, contrarié. Effectivement, il prend toujours dans la véritable histoire pour mettre dans ses propres histoires. Mais ça colle à chaque fois. Il y a si rapidement, je peux prendre cet exemple qui est assez fort. Quand dans 20 ans après, Charles Ier est exécuté, dans la réalité historique, Charles Ier crie « Remember ». Mais « Remember », souvenez-vous, ça veut dire « Souvenez-vous que vous avez tué un roi quand même, c'est pas rien ». Et dans le Dumas, dans 20 ans après, Athos est caché sous l'échafaud de son ami Charles Ier. Et Charles Ier lui dit « Il y a un trésor planqué, prends-le et puis va remettre Charles II, mon fils, au pouvoir ». Et quand il va se faire tuer, Charles Ier crie « Remember ». Mais là, il crie « Remember » à Athos, « Souviens-toi qu'il y a un trésor planqué ».
Il a réemployé finalement le mot historique. En fait, j'ai pour coutume de dire que l'histoire est un grand réservoir d'expériences humaines. C'est ça sans doute qui fascinait le littérateur et l'amoureux des grands sentiments chez Dumas, évidemment. Alors vous nous dites, il a été un historien frustré. En même temps, il a fait œuvre d'historien. On en avait parlé ensemble il y a maintenant un peu plus d'un an à propos des Médicis. Même chose pour ce qui est de ses chroniques de la Régence, préfacées et annotées par Claude Chope et qui sont rééditées à la librairie Vuibert.
Exactement. Il a écrit plusieurs ouvrages purement historiques, sans aucune trace de roman historique, encore que, parce que pour Dumas, il a écrit Gaulle et France, par exemple, il a écrit Louis XIV et son siècle. Il a comme ça 5 ou 6 ouvrages purement historiques, mais quand je dis purement historique, comprenons-nous bien, il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis, et pour lui, l'histoire, c'est avant tout des anecdotes, il faut que ça vive, il faut que ce soit presque un roman, mais un roman vérifié,
un roman vrai.
Si on veut, un roman vrai. Il dit, ceux qui font l'histoire aujourd'hui, bon, ils sont un peu arides, comme ça, pointilleux, avec leurs petites lunettes, ils vont chercher les petits détails et tout. Il appelle ça, j'ai noté, un squelette sans cœur. Un squelette sans cœur, mais d'un autre côté, il n'est pas dupe sur le roman historique, qu'il appelle un mannequin sans squelette. Parce que le roman historique, bien sûr, il est trop fardé, trop maquillé.
Un peu trop beau pour être vrai.
Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est une de ses cordes à son arc.
On va venir évidemment ensemble dans un instant sur cette période même de la Régence, mais pour ce qui est des chroniques d'Alexandre Dumas sur cette époque, on se rend compte que en fait elles ont évolué avec le temps. On a deux versions en fait, la version censurée et puis la version libre.
La première version évidemment n'est pas censurée, c'est celle de 1849. Alors évidemment il parle de la Régence, donc forcément c'est très sulfureux, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de comme ça, bon, le régent on l'accuse d'avoir eu des tendresses excessives
pour sa propre fille. En fait, il y a de l'inceste dans ces histoires, mais ce qui est étonnant, c'est que l'inceste est peut-être le sujet qui vient le plus souvent sous la Régence. Tout à l'heure, quand on parlait des relations de Fériol avec la jeune Haïssée, on n'en était pas très loin entre nous, puisqu'il se considère à la fois comme le père et l'amant.
C'est ça, et donc la Régence fournit d'anecdotes pleines comme ça de scandales, et notamment une qui a été enlevée dans la première version de 18, dans la deuxième version. Alors voilà, je reprends. 1149, première version de ces chroniques de la Régence.
On comprend au montage.
Aujourd'hui.
Hein, ça. Voilà.
Et il y a une deuxième publication sous le Second Empire. Et là, évidemment, on est beaucoup plus voilà coincé et tout ça. Donc on a expurgé le texte de tous ces scandales.
Alors le texte qu'on a là, qui est réédité par Vuibert, c'est le texte complet,
original, hein, bien évidemment.
Entendu. Évidemment. Alors, quelle a été l'inspiration d'Alexandre Dumas et pourquoi s'est-il à ce point intéressé à la Régence? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Vous allez voir que cette période qui est donc coincée, si l'on peut dire, entre le règne de Louis XIV et le règne de Louis XV est extrêmement riche en aventures et en rebondissements.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
On écoutait Antoine Duhamel, le générique de la bande originale du film, en tout cas un extrait, Que la fête commence, film réalisé par Bertrand Tavernier en 1975.
Eh oui, Que la fête commence, il faut voir ce film magnifique qui donne une image assez, assez précise de cette régence de Philippe d'Orléans. Il faut dire que Louis XIV meurt après 72 années de règne, et quand je dis 72 années de règne, donc 15 années extrêmement sombres, hein, toute cette fin du règne de Louis XIV dont on a l'impression qu'elle ne finira jamais, avec une rigueur, un moralisme ambiant, et puis d'un seul coup, on a l'impression, je disais tout à l'heure, qu'on ouvre les vannes, Louis XIV est mort, le jeune roi Louis XV est beaucoup trop petit, il a 5 ans, il ne peut pas encore régner lui-même, donc c'est son oncle, on peut dire, allez, en tout cas c'est le neveu de Louis XIV qui va devenir le régent, et alors là, c'est la belle vie, que la fête commence, Nicolas Carreau. Hein.
Que la fête commence, oui, mais il faut prendre le pouvoir quand même, parce que Louis XIV, effectivement, il était un petit peu temps que ça se termine, il a beaucoup beaucoup dépensé et il avait fait un testament pour organiser la suite du pouvoir. Mais comme note Dumas...
Sous l'influence de Madame de Maintenon, hein, qui voulait mettre le duc du Maine au pouvoir. On a parlé de ça avec François Chandernagor la semaine dernière.
Et qu'elle prenne aussi du coup une part à ce pouvoir. Mm-hmm. Et évidemment, tout est cassé quand Louis XIV meurt et Dumas note assez impertinemment « Nous sommes tout puissants tant que nous vivons, morts, nous sommes moins que de simples particuliers. » Et effectivement, tout le testament de Louis XIV est détruit par le régent et ses amis. Et le duc du Maine, qui devait prendre effectivement une grande part...
Le bâtard de Louis XIV.
Le bâtard, hein. Prince légitimé de Louis XIV, devait prendre une grande part au pouvoir, est évincé. Et tout le pouvoir, finalement, pour résumer, revient dans les mains du régent qui décide d'évoluer, de devenir un peu plus moderne que Louis XIV en mettant en place la polysynodie.
C'est-à-dire des conseils. C'est une direction collégiale des affaires, en fait. Hein,
voilà, il y a, je sais plus, 7 ou 8 conseils de la guerre, de la justice, etc.
Les finances,
etc.
Gros
des
problème.
Finances, bien sûr. Et donc, plus personne ne décide seul, enfin,
en
officiellement.
Fait, en fait, le régent décide bien, simplement, il ne décide pas toujours dans le bon sens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la politique de la France laisse à désirer à cette époque. On a notamment cette catastrophe financière, ce banquier écossais qui s'appelle John Law. Alors on disait Lass à l'époque, hein, ça s'écrit L-A-W. Ce banquier va monter un système d'assignat, un système de monnaie papier, qui va complètement s'effondrer et qui va conduire l'État à la banqueroute. Hein. C'est un vrai désastre, cette histoire.
Oui, à la fin, parce qu'il y a eu de la spéculation et une bulle comme on connaît très bien aujourd'hui.
Il y en a qui se sont enrichis au passage,
mais voilà, au départ, c'est fabuleux. En plus, c'est un coup de poker pour le régent, parce qu'il ne connaît pas le Lass, là. Donc il lui dit de tenter le coup, parce que de toute façon, les finances, mais Louis XIV a tout croqué.
Il y a eu des guerres très longues.
Il y a eu des guerres longues, des bâtiments, enfin tout le faste de Louis XIV que vous connaissez très bien, Franck. Et tout ça, ça vous fait plaisir à vous aujourd'hui, Franck, mais ça nous a mis quand même en faillite à la mort de Louis XIV. Donc il fallait absolument redresser les finances. Donc on commence par ponctionner les riches, ça le peuple est très content, on va chercher l'argent où il y en a. Et puis donc Lass arrive pour monter son système qui est en fait la bourse d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on échange de l'or contre des actions, et au départ, ça marche très très bien, et tout le monde veut ses actions. Le cocher, on raconte que le cocher, Dumas dans ses chroniques de la Régence, raconte que le cocher de Law est devenu extrêmement riche, et donc il veut plus être cocher forcément, et donc Law lui donne congé en lui disant « oui d'accord, mais enfin trouvez-moi un de vos collègues cochers », et le cocher revient avec deux cochers, un pour Law et un pour lui. Tellement il est devenu riche, il a maintenant son cocher à lui.
Son propre cocher. Alors, c'est une période très dure à vivre quand même pour les gens, parce qu'à partir du moment où la monnaie n'a plus de valeur, évidemment, c'est une espèce d'anarchie qui s'installe. On est au bord de la révolte quand même, il faut le dire.
Hein. On est au bord de la révolte, oui, et c'est l'occasion de lancer des conspirations à ce moment-là. De toute façon, la régence, c'est une...
Il y a eu notamment la célèbre conspiration dite de Sellamar, laquelle a trempé le fameux duc d'Humaine. On ne va pas entrer, nous, dans ces détails-là aujourd'hui.
Exactement, mais c'est une conspiration intéressante. Sellamar, c'est l'ambassadeur d'Espagne en France qui veut tout simplement enlever le régent pour le remplacer. Et il est aidé donc par le duc d'Humaine, et ils sont plusieurs comme ça.
Et la duchesse d'Humaine, qui en fait est l'âme du complot.
Voilà, exactement. Mais c'est brouillon, c'est une conspiration qui en fait, c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est parce qu'elle est reprise par Dumas dans un de ses premiers romans historiques, qui s'appelle Le Chevalier d'Armental, et qui raconte toute cette conspiration de Sellamar.
D'ailleurs,
c'est complètement brouillon, et dans Dumas, c'est très bien raconté, et pour une fois, il prend pas trop de liberté. Bon, il rajoute ses personnages, le Chevalier d'Armental et le capitaine Roquefinette, avec sa broche, c'est-à-dire son épée gigantesque. Bon, bref, je passe les détails, mais enfin, tout ça pour vous dire que la conspiration échoue bêtement. Les conspirateurs ont besoin d'envoyer des copies de leur correspondance en Espagne pour qu'on s'arrange, pour que les bataillons arrivent par-ci et qu'à Paris, on se débrouille comme ça. Et sauf qu'ils donnent à une photocopieuse vivante, si vous voulez, un copiste de l'époque qui s'appelle Jean Buvat, il lui donne à copier des lettres. Et parmi ces lettres, il laisse traîner des documents qui sont très très clairs sur leur dessin. Et du coup, le Jean Buvat en question...
C'est Léger de chez Léger. Hein.
Voilà, va apporter aux autorités et à Dubois en particulier, le Richelieu de l'époque, si vous voulez, va apporter à Dubois ses preuves, et donc tout le monde est arrêté. Alors, tout le monde est pardonné aussi.
Frédéric nous dit « Formidable, une période qui tient tout entière depuis deux siècles sur les épaules de Saint-Simon », parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Simon a joué un rôle, lui, très important pendant cette régence. « Le scandale des palissades, l'abbé Dubois se faisant un chausse-pied du cardinal de Rohan pour passer devant les ducs, Dubois envoyant monsieur de Breteuil dans le Limousin arracher la page du registre paroissial où figure son mariage afin qu'il puisse se faire sacré évêque et le récompensant du portefeuille de la marine. Ah, on savait s'amuser en ce temps-là », dit Frédéric, un peu ironique quand
mais
même.
C'est vrai que c'est amusant parce que tout est un peu dans la douceur. Enfin, je vais pas idéaliser cette époque non plus, mais par exemple, cette conspiration, personne ne va à l'échafaud. Le duc d'Humaine, bon, c'était un peu malgré lui que ça s'est passé, donc il est pardonné.
Il est magnanime, le régent. Hein,
exactement.
C'est pas un sanguinaire.
Le duc de Richelieu, qui est un grand personnage, il a quand même conspiré pour enlever le régent. Le régent l'envoie quand même à la Bastille.
Avec son maître d'hôtel, quand même.
Oui, mais quasiment immédiatement après. En plus, il lui permet de se balader sur les terrasses, qui fait que dans la rue Saint-Antoine qui borde la Bastille, des dames viennent dire bonjour au duc de Richelieu, parce que c'est un homme à femme que toutes les femmes de Paris adorent, donc elles viennent agiter leurs mouchoirs, et Richelieu répond en leur envoyant des baisers de la Bastille.
On comprend pourquoi Alexandre Dumas, les romanciers, les gens de théâtre et de cinéma et de télévision se sont tant entichés de la Régence. On a l'impression d'une comédie permanente, même les choses un peu graves, un peu terribles, tournent un peu à la comédie. Je pense à Cartouche par exemple, hein, le grand bandit, évidemment.
Cartouche, oui. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un roman de Dumas consacré à Cartouche.
Mais il a peut-être pas eu le temps. Oui.
Alors, Cartouche, c'est donc le bandit de l'époque. Un bandit, il a 25 ans. Il a la tête. C'est un bandit assez particulier parce qu'il a fédéré autour de lui des centaines de brigands. On parle de 2000 brigands autour de lui. Alors, brigands, on s'entend. Hein, ça, c'est effectivement des types qui volent des bourses, des pickpockets, si vous voulez. Mais il y a aussi un valet de chambre du régent qui fait partie de sa troupe, etc. Bon, bref. C'est un brigand qui en plus redistribue aux pauvres, donc c'est le côté sympa du personnage. Mais surtout, il a une fin terrible. Il se fait arrêter, il passe à la question, donc euphémisme pour dire la torture. Il ne parle rien, il ne donne aucun de ses complices, même s'ils sont 2000. Il part à l'échafaud, et quand il arrive à l'échafaud, côté de l'hôtel de ville, place de Grève, il regarde comme ça, il cherche des yeux ses amis.
Il va être roué vif, hein, un supplice atroce.
Mais il cherche des yeux ses amis qui devaient normalement le sauver, et personne. Alors il dit non, attendez, j'ai quelque chose à dire finalement, et là il balance 300 de ses amis. Mmh. Et il sera quand même roué, c'est-à-dire tapé à coups de barre de fer, et Dumas raconte que un archer, quand même, pour finir, pour l'achever, lui serre son col et le carotte.
Cette grande comédie qu'on appelle La Régence, écrit Alexandre Dumas, on ajouterait presque cette grande tragicomédie, car il y a quand même des ombres, il y a quand même du sang et il y a des pleurs, évidemment, au milieu des éclats de rire et du champagne qui coule à flot, hein, Nicolas Caro.
Il y a la duchesse de Berry, notamment, qui a un destin tragique, elle aussi, qui était connue pour être très très légère dans ses mœurs et qui était en plus de ça alcoolique, ivrogne. Et elle avait pris le palais du Luxembourg, c'était la fille du régent, elle avait pris le palais du Luxembourg et elle recevait ses galants dans ce palais. Et elle meurt à 25 ans seulement, des suites d'un accouchement qui se passe très mal. Et alors, pour la petite histoire, du coup, il y a le médecin du régent Chirac qui veut la sauver et il n'y arrive pas. Et donc, c'est Garus, qui est une sorte de charlatan de l'époque, qui lui donne un élixir et on pense qu'elle va s'en sortir. Et là, Chirac tue en fait la duchesse de Berry en l'empoisonnant pour pas que Garus l'emporte.
Les chroniques de la Régence d'Alexandre Dumas, préfacées, annotées par Claude Schopp. C'est à la librairie Vuibert, avec en couverture le très beau tableau de Van Loo sur la halte de chasse. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler, toujours avec cette passion qui vous anime dès qu'il est question d'Alexandre Dumas.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
C'est l'heure donc du nouveau rendez-vous Retour aux origines. Franck, vous nous parlez de l'histoire d'Europe 1.
Oui, c'est juste, on va dire que c'est un petit teasing, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire c'est une petite mise en bouche pour vous donner envie d'aller voir la causerie sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai raconté longuement, ça durait, je sais pas, un peu plus d'une heure, l'histoire d'Europe 1 et notamment les origines d'Europe numéro 1, comme on disait, en 1955, dans un monde où n'existait quasiment pour ce qui est des médias, que la radio, c'était le grand média de l'époque. Et alors on avait à la fois la radio très classique Paris Inter, hein, vous savez, qui avec le ton de speaker de l'époque, et puis de l'autre, Radio Luxembourg, qui avait importé des États-Unis la publicité, les émissions de jeux grand public, des musiques un peu plus décoiffantes. Et voilà qu'Europe numéro 1, voulu par Louis Merlin. Louis Merlin était le patron de la société Les Programmes de France, qui organisait, qui vendait à toutes les radios les programme de l'époque. Louis Merlin se dit que la société est mûre pour une radio plus neuve, plus moderne, plus vivante. Et donc il va exiger des animateurs, qu'on appelle à l'époque les meneurs de jeu, de parler comme s'ils étaient dans leur famille ou dans leur salon. Il ne faut plus ce ton un peu perché, il faut parler normalement. Et d'ailleurs, c'est Pierre Bellemare qui raconte que Louis Merlin passait derrière les meneurs de jeu ou derrière les journalistes de l'époque, et lorsqu'il se mettait à parler de cette façon un peu guindée, il les pinçait tout simplement pour leur rappeler qu'il fallait parler comme à la maison. Et ça, c'est un ton nouveau. Europe 1 et l'enfant, on le sait, de trois grandes inventions. Évidemment, d'abord, le Nagra, qui va permettre à nos journalistes le Nagra, c'est le petit magnétophone, hein, qui va permettre aux journalistes de se déplacer, d'aller sur place, vivre l'événement et le faire littéralement partager aux auditeurs. On a passé pendant la conférence, là, on a passé un certain nombre d'extraits de la guerre d'Algérie ou même de l'entrée des chars soviétiques à Budapest en 1956, on a l'impression qu'on y est. À un moment, il y a un char qui se tourne, qui tire en direction du journaliste et vous l'entendez à l'écran, vous l'entendez à l'antenne. C'était très nouveau pour les Français de l'époque. Deuxième grande invention, c'est le transistor, bien entendu, parce que jusqu'alors, on avait le poste de radio dans le salon et là, on peut se promener avec sa radio, on peut l'emmener, on peut emporter Europe numéro 1 partout. Et puis la troisième invention qui a joué un rôle également très importante, c'est le micro-sillon avec évidemment des émissions comme Salut les copains, bien entendu, et ce goût de la musique pop qui va devenir l'image d'Europe 1 pendant longtemps, en même temps que les humoristes. Et alors là, si on devait faire toute la liste des humoristes qui, depuis l'origine, ont animé l'antenne, il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'est pas une humoriste, évidemment. Bonjour Hélène Mornin.
Oh, j'aurais adoré, mais il faut avoir du talent pour ça. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts Europe 1, nous allons peut-être parler aussi de vos souvenirs, mais aussi d'actualité. Tiens, je vais vous interroger Franck, est-ce que vous avez des souvenirs de cantine scolaire?
Oh mon Dieu, oui. Mais ce ne sont pas les meilleurs de ma vie, pour tout vous dire.
Eh bien, on va essayer de les changer, justement. Vous savez qu'il existe ici ou là des initiatives près de chez vous pour améliorer les cantines scolaires de vos enfants. Eh bien, j'attends que vous nous parliez de vos initiatives et vos questions aussi pour monter, je ne sais pas, par exemple, une cantine bio. C'est possible, c'est chez les experts Europe 1. Vous appelez vos témoignages au 3921 ou europe1.fr.
Merci beaucoup et nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec plaisir, Franck, à demain.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.